Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Et je vous accompagne pendant 60 minutes pour l'édition de vendredi, le 4 janvier 2019. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par les journaux. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour tout le monde, sur l'onde courte de 3325 kHz ou sur le site de www.voinews.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Secrétaire, bonsoir. Voici donc le journal. Nous commençons avec les titres. Le président a dit éviter les canulars et les calomnies avant les élections 2019. Jokowi a observé le lieu de la catastrophe du tsunami à Lampung. L'industrie du textile et des produits textiles est prête à augmenter les exportations. La ministre Sri Mulyani a dit « Restez prudent en 2019 ». Le drone de BPPT remporte un certificat d'admissibilité des produits militaires. La semaine prochaine, Garuda Indonesia exploitera la route Solo-Madina. Le ministère de l'Industrie encourage les PME métalliques dans Ceper Klaten. Et Tampang, le chargé d'affaires de l'ambassade saoudienne visite PBNU. Voici le journal complet. Le président Joko Widodo a demandé à nouveau toutes les parties à éviter la propagation des canulars et calomnies avant les élections 2019. Le président Joko Widodo, après la remise des certificats fonciers aux résidents de Blitar dans l'est de Java, a déclaré que toutes les parties devaient rester calmes. Tout doit être bon pour transmettre des questions liées à la politique afin de ne pas causer de mauvaises pensées de la communauté. C'est ce qu'a affirmé le président Joko Widodo, répondant au canular de 7 containers de bulletins de vote qui ont été perforés. Selon le président, de telles conditions peuvent provoquer des pensées négatives, des mauvaises pensées au sujet de la triche. Le président Joko Widodo a effectué une visite de travail sur le site du tsunami dans la région de Lampung Sud, dans la province de Lampung, récemment. La visite du président a été accueillie par le gouverneur de Lampung, M. Rido Ficardo, et le général commandant de la région militaire de Sriwijaya, le général de division de TNI Irwan, à l'aéroport Raden Inten Baranti, Lampung, récemment. Dans cette visite, le président est accompagné du ministre de la Coordination des Affaires politiques, du Droit et de la Sécurité, Wiranto, du ministre des Travaux publics et du Logement, Basuki Hadi Mulyono, du ministre des Affaires sociales, Agus Gumiwang, de la ministre de la Santé, Nila Juwita, et du chef de cabinet du président, Muldoko. C'est ce qu'a affirmé le chef des relations et de la communication publique du gouvernement provincial de Lampung, Herian Shah. Selon lui, la présence du président Jokowi est d'observer les sites touchés par le tsunami du détroit de la Sonde, tels que le village Kunchir et Waimuli, l'hôpital Bob Bazar, le lieu des réfugiés sur le court de tennis en salle de Kalianda. Les hommes d'affaires de l'industrie du textile et des produits textiles, TPT, sont prêts à augmenter leurs exportations en 2009 avec le soutien d'incitations fiscales qui seront bientôt soumises. Le président de l'Association indonésienne des textiles, API, Ade Sudrajat, à Jakarta, a déclaré jeudi que l'industrie du TPT souhaitait des incitations pour de nouveaux investissements orientés vers les sources de devises et la création des emplois. Selon lui, ces incitations destinées aux industries orientées vers l'exportation peuvent améliorer les résultats des exportations nationales, si bien que cela peut améliorer la balance commerciale de l'Indonésie. La ministre des Finances, Sri Mulyani Indrawati, restera prudente dans la gestion du budget de l'État, APBN 2019, comme l'a indiqué Republica en ligne, la ministre Sri Mulyani, lors d'une conférence de presse tenue à Jakarta récemment, a déclaré que la condition du budget de l'État de cette année était différente de celui de 2018 et 2017. En effet, le budget de l'État des années précédentes avait eu des avantages inattendus de la hausse des prix mondiaux du pétrole et du charbon. Republica en ligne a rapporté que les recettes de l'État en 2018 avaient atteint 1 942,3 trillion rupiah, soit 102,5% de l'objectif. Par rapport aux réalisations de 2017, les recettes de l'État ont progressé de 16,6%. Il a également déclaré que la croissance des recettes publiques non fiscales 2018, qui se levait à 30,8% par rapport à l'année précédente, était la croissance la plus forte depuis 2009. La réalisation des recettes publiques non fiscales a été influencée par la hausse des prix mondiaux des produits de base, en particulier les prix du pétrole et du charbon. Le drone de type ALAP ALAP PA06D, conçu par l'Agence d'évaluation et d'application des technologies, BPPT, a obtenu un certificat d'admissibilité de l'Agence des installations de défense du ministère de la Défense en tant que produit militaire. Dans sa certification, ce drone est destiné aux missions de cartographie. Wahyu Widodo Pandu, le représentant de BPPT, a déclaré jeudi à Jakarta que ce drone a des capacités de cartographie couvrant une superficie de 1700 hectares par heure. Le drone peut également cartographier une zone de plus de 8500 hectares à une altitude de 1500 pieds. Wahyu espère qu'en obtenant un certificat d'admissibilité, ce drone pourra être utilisé à des fins militaires. La compagnie aérienne Garuda Indonesia exploitera l'avion sur la ligne Solo-Madina la semaine prochaine afin d'optimiser les services offerts aux consommateurs d'Omra. Le directeur général de Garuda Indonesia de la succursale de Surakarta, Hendrawan, a déclaré récemment à Solo, dans le centre de Java, que la demande de vol pour l'Omra était élevée. Il a ajouté que la route opérationnelle commencerait le 9 janvier et se rendrait à Aceh pour répondre aux besoins des pèlerins de l'Omra qui partiraient de l'aéroport Sultan Iskandar Muda. Sa partie prépare un avion Airbus 330 d'une capacité de 360 passagers. Hendrawan espère que la disponibilité de sièges pourra répondre aux besoins de la communauté. Le ministère de l'Industrie continue d'encourager l'utilisation des produits nationaux pour les processus de fabrication et le développement des projets. L'un d'entre eux consiste à autonomiser les petites et moyennes entreprises ou PME de Ceper, Klaten, Java Central. Le directeur général des PME du ministère de l'Industrie, Gati Wibawaningsi, a déclaré jeudi à Jakarta que les efforts qui ont été faits par le ministère de l'Industrie, entre autres, d'encourager le développement des centres de PME métalliques à Ceper, Klaten, Java Central pour être plus compétitifs et avoir un large accès au marché. Parce que Ceper est l'un des grands centres de l'industrie du moulage des métaux en Indonésie. Selon Gati, quelques plusieurs des produits de qualité supérieure pouvant être fabriqués par les PME métallurgiques de Ceper sont des composants de machines industrielles, des composants d'usines, des équipements de navires, les composants de chemin de fer, les composants de pompes à eau, les appareils ménagers, les machines et les composants automobiles. Le chargé d'affaires de l'ambassade d'Arabie Saoudite d'Indonésie, Yahya Al-Qattani, s'est rendu au bureau du conseil d'administration de Nahdlatul Ulama, PBNU, pour discuter des dernières questions, entre autres, la coopération dans le domaine de l'éducation. Lors d'une conférence de presse à Jakarta jeudi, le président général du PBNU, Kiai Haji Said Akil Siroj, a déclaré que l'ambassade était venue pour renouveler, souligner que le PBNU et l'Arabie Saoudite seraient toujours dans de bonnes relations. À cette occasion, Said Akil Siroj a demandé à l'ambassade d'Arabie Saoudite de renforcer la coopération en matière d'éducation, notamment en augmentant les bourses d'études. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, voici le commentaire aujourd'hui intitulé Les résultats des élections générales au Bangladesh.
Serviteur, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre Les résultats des élections générales au Bangladesh. Des élections générales viennent d'avoir lieu au Bangladesh. Les résultats sont assez étonnants. Le parti de la Ligue Awami, dirigé par le premier ministre Sheikh Hasina, a remporté 98% des sièges au Parlement. Cette réussite fera que le premier ministre Sheikh Hasina prendra ses fonctions pour la quatrième fois. Mais l'opposition estime que le gouvernement au pouvoir a utilisé tous les moyens pour remporter les élections législatives. Même certaines parties considèrent son gouvernement comme étant autoritaire. L'élection a été colorée cette fois par la détention d'un journaliste d'un journal local. Ce journaliste a révélé le risque de fraude après avoir constaté que l'un des districts électoraux avait l'excès de vote plus de 20 000 voix par rapport à la liste des électeurs qui sont inscrits dans cette région. Ensuite, la police a alors arrêté le journaliste avec l'accusation de la violation de la loi sur la sécurité numérique. Mais la loi est considérée comme controversée. En effet, sous le gouvernement actuel, on a dit que le taux de croissance du Bangladesh était bon depuis 4 ans. En 2014, la croissance économique du pays avec une population de 167 millions d'habitants a atteint 6,3%. En 2017, il a augmenté à 7,4%, principalement en raison des échanges avec les partenariats principaux, les États-Unis et l'Union européenne. Mais les voies nationales veulent un taux de croissance économique positif accompagné d'une démocratie positive. Maintenant, cet espoir n'est pas encore réalisé. L'accusation de l'opposition est le gouvernement de bloquer la sympathie des électeurs envers l'opposition, à la suite de l'arrestation de militants de cette opposition. Les États-Unis, qui sont les plus gros investisseurs dans le pays, sont ambigus. D'un côté, il s'est dit préoccupé par la violence et l'intimidation avant les élections. D'autre côté, les États-Unis ont remercié les électeurs du Bangladesh. Le 10 janvier, le nouveau gouvernement du Bangladesh sera assermenté à la tête du pays. Nous espérons que le Bangladesh doit apprendre des autres pays qui encouragent l'amélioration économique sans abandonner les principes fondamentaux de la démocratie. Les pays avec la culture confucienne l'ont fait, mais pas avec des cultures différentes. Nous attendons avec impatience si le gouvernement nouvellement élu a modifié le développement de la démocratie au Bangladesh. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 4 janvier 1959, Luna 1 devient le premier vaisseau spatial à s'approcher de la Lune. Luna 1, appelée aussi Lunik 1 ou Mehta, est une sonde spatiale soviétique. C'est le premier vaisseau spatial à s'approcher de la Lune. C'est la première mission du programme Luna de l'Union soviétique. Ce vaisseau devait frapper la Lune mais a échoué et est devenu le premier objet fabriqué par l'homme à voler en orbite autour du Soleil. Lorsqu'il traverse l'extérieur de la ceinture de radiation de Van Allen, le scintillateur de véhicule a observé la présence d'un petit nombre de particules subatomiques de haute énergie. Le 4 janvier 1948, l'indépendance de Myanmar. Le 4 janvier 1948, le Myanmar, alors connu sous le nom de Birmanie, a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne depuis le XVIe siècle. Les pays européens, y compris la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la France, se disputent les riches ressources naturelles de Myanmar. Après deux grandes guerres entre le peuple de Myanmar contre les envahisseurs, au milieu du 19e siècle, la Grande-Bretagne a officiellement contrôlé le Myanmar et a uni le Myanmar et l'Inde. À l'époque de la Seconde Guerre mondiale, le Myanmar était occupé par le Japon. Cette ère de l'occupation japonaise est exploitée par le peuple de Myanmar pour organiser son mouvement d'indépendance en créant la Ligue antifasciste populaire libre sous le leadership de Aung San. Après que le Japon ait perdu, la Grande-Bretagne est retournée au Myanmar. Il a finalement accepté de confier l'indépendance de Myanmar. Le 4 janvier 2004, Spirit, un véhicule d'explorateur de Mars de la NASA, a atterri sur Mars. Spirit, la mission de rover d'exploration de Mars, ou A, ou MER-A, est le premier des deux manèges dans le projet du rover d'exploration de Mars. Il a atterri sans problème sur Mars le 4 janvier 2004 à Gusev, trois semaines avant que son jumeau Opportunity avait débarqué sur l'autre côté de la planète. Il continue à fonctionner efficacement 20 fois plus longtemps que prévu. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui.
Kita saling bercanda, berbincang seadanya, semua biasa saja. Tak pernah kubayangkan akhirnya datang. Gelisah dan rinduku menyatu dalam mimpi. Malam-malam begini termenungku sendiri, menunggu kau di sini. Berbincang seadanya.
Chers amis, voilà la chanson intitulée « Mulanya biasa saja » ou en français « Au début, c'est normal » chantée par Elmi Kulit. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie pour tout le monde. Et voici mon Indonésie dont le titre est « L'Indonésie et l'Équateur organisent un forum de coopération sur le commerce et l'investissement ».
Chers amis de l'antenne, nous continuons notre programme avec mon Indonésie et pour le titre « L'Indonésie et l'Équateur organisent un forum de coopération sur le commerce et l'investissement ». L'Indonésie et l'Équateur ont réussi à mettre en œuvre le forum de coopération commerciale à Quito en Équateur récemment. Le protocole d'accord sur la création du forum a été signé en 2012. Les informations socioculturelles de l'ambassade d'Indonésie à Quito dans une déclaration citée par Antara ont déclaré jeudi que les deux pays avaient discuté des divers problèmes de commerce et d'investissement entre les deux pays, notamment l'accès au marché, les facilités commerciales, les procédures douanières et l'introduction des secteurs d'investissement prioritaires des deux pays. À ce forum, ils ont également abordé les obstacles au commerce rencontrés par les deux pays, tant sous forme de tarifs que non tarifaires. L'Indonésie a exprimé la plainte des importateurs et exportateurs liée aux droits de douane imposés par l'Équateur, qui reste très élevé. L'Indonésie propose que les deux pays analysent la possibilité d'établir un accord de coopération commerciale à l'avenir. Les deux parties ont convenu de mener d'autres études sur la possibilité de l'établissement de l'accord commercial. Selon le directeur des négociations bilatérales du ministère du Commerce, Made Martini, la réunion a constitué une chose historique pour les relations bilatérales entre les deux pays. Depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1980, c'est la première fois que les deux pays organisent des forums de coopération sur les questions relatives au commerce et à l'investissement. Selon Made Martini, l'Équateur est le cinquième partenaire commercial de l'Indonésie dans la région de l'Amérique du Sud, qui pourrait devenir la porte d'entrée des produits indonésiens sur le marché sud-américain. L'ambassadrice d'Indonésie à Quito, Diana Riyati Cokro Suprihatono, a estimé que cette réunion était très importante pour ouvrir des barrières limitant les échanges, compte tenu du potentiel de l'Équateur en tant que marché non traditionnel pour l'Indonésie en Amérique du Sud. Cela a été démontré par le don de prix Prima Duta à une entreprise équatorienne en 2018. Lors de sa visite, le 19 décembre, la délégation indonésienne a discuté également avec Palmicultor, l'association équatorienne de l'huile de palme, sur des questions pouvant être coopérées entre l'Indonésie et l'Équateur. Les délégués ont également eu l'occasion de visiter des usines de cacao et des champs de roses. Ces deux produits sont les principaux produits d'importation d'Indonésie en provenance d'Équateur. Serviteur, c'était en Indonésie, de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia. Indonesia.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson intitulée Sumpahku, ou en français Mon serment, chantée par Calvin Jeremy. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour tout le monde. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia de 3325 kHz et www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on parle du parc de Seramba. Le 6 décembre 2018, Hari Prianto, directeur des opérations de Perum Perhutani, avec Budi Sulistiono, le régent du district de Ngawi, remet le certificat de normalisation pour la gestion du tourisme de nature de Canopy de 2018 à chaque responsable de cette site touristique qui avait répondu aux normes. La présentation de ce certificat fait suite à la mise en œuvre du lancement de Canopy qui s'est tenu le 11 novembre 2017. Canopy est une marque ou une identité qui abrite les différents tourismes de nature de Perhutani dont les normes de produits, de services et la gestion sont professionnelles et de qualité. C'est l'engagement de la direction d'améliorer continuellement la qualité des produits et services du tourisme naturel. L'emplacement standard de Canopy offre une expérience de voyage agréable, fraîche et aventureuse. Cette fois-ci, je vais vous présenter l'un des 7 sites touristiques ayant reçu le certificat de Canopy, à savoir le parc de Seramban. Le parc de Seramban se trouve au milieu de la zone forestière de Jogorogo et du versant nord-est du Mont Lawu. Nous pouvons aller à cet endroit touristique du centre-ville de Ngawi, dont la distance est de 30 km et dont le temps est 52 minutes. Le parc de Serambangan est ouvert de 8h à 16h. Pour entrer dans ce lieu touristique, vous devez payer un billet d'entrée de 15 000 rupiah par personne. Dans cette zone touristique, il fait frais. Et vous entendrez le chant des oiseaux. N'oubliez pas de visiter la cascade car c'est l'attraction principale. Il y a plusieurs belles places pour prendre des photos telles que l'écriture de Seramban Park Ngawi, une rangée de dizaines de parapluies colorés, l'arbre du ciel, une variété de décorations d'entrée pour entrer au site touristique et le pont des maisons dans les arbres et aussi Framlof. Le parc de Seramban a été équipé de diverses installations telles qu'un grand parking, des restaurants, des salles de bain, des belvédères et des lieux de culte. Pour ceux qui veulent y aller, apportez un parapluie ou un imperméable car la pluie tombe souvent en décembre et en janvier. De plus, cette destination est située dans des zones pluvieuses. Pour vous qui voulez rester, vous pouvez séjourner à l'hôtel ou chez les habitants disponibles près de ce lieu touristique.
Voice of Indonesia.
But perpisahanmu denganku. Tak pernah aku inginkan. Namun tetap aku yakin ini yang terbaik.
Voilà la chanson de Hello, intitulée « Kisah kita telah usai » ou en français « Notre histoire est terminée ». Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour tout le monde. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur.
Voice of Indonesia.
Secrétaire, bonsoir. Voici l'Indonésie en couleur pour ce soir et pour le titre Le pont de la Fontaine danse à Semarang. Restez toujours avec nous sur www.voynews.id. Serviteur, la ville de Semarang a maintenant une nouvelle icône de tourisme sous la forme d'un pont de Fontaine d'Ansan. Le pont de la Fontaine d'Ansan est un pont de style moderne avec les fontaines d'Ansan équipées d'un éclairage charmant. Cela fait du pont de Fontaine qui danse comme premier pont de Fontaine en Indonésie. Le maire de Semarang, Hendrar Prihadi, a bon espoir que cette fontaine dansante sur le pont de la rivière d'inondation du canal occidental de Semarang puisse être un pilier du nouveau tourisme de Semarang. L'attraction de la fontaine dansante appartient également à la résidence de Purwakarta, Jawa Occidental, appelée la fontaine dansante dans le parc Sri Baduga. Cependant, l'attraction de la fontaine à Purwakarta se trouve sur un terrain plat du parc, tandis que le pont de la fontaine dansante se trouve à droite, à gauche et au centre du pont. Serviteur, le pont de la fontaine dansante a été lancé la veille de la nouvelle année 2019. L'attraction des fontaines dansantes a lieu tous les week-ends, à savoir les vendredis et samedis de 19h30 à 20h, heure locale, puis de 20h à 20h30, heure locale. Le pont de la Fontaine dans plusieurs pays est devenu une pôle d'attraction pour les touristes. Par exemple, le pont de la Fontaine de Banpo en Corée du Sud avec le spectacle Moonlight Rainbow Fountain est un spectacle qui est toujours recherché par les touristes lors de sa visite à Séoul. Hendrar Prihadi espère que la présence de l'attraction de la Fontaine dansante peut devenir une nouvelle icône touristique qui augmente le niveau des visites touristiques à Semarang. Serviteurs, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de votre attention. À demain.
Seharusnya kau berpaling dariku di saat ku harus jauh dari dirimu, karena aku masih mencintaimu dan yakin diriku hanyalah untukmu. Apa yang ku rasakan tak seperti kenyataan, berbagi cinta selain diriku. Mungkinkah kembali segala rasa yang telah hilang, walau hati kecilmu masih mencintai. Kau berpaling dariku
di saat ku harus jauh dari dirimu, karena aku masih mencintaimu dan yakin diriku hanyalah untukmu. Apa yang ku rasakan tak seperti kembali segala rasa yang telah hilang, walau hati kecilmu masih mencintaiku. Tak ingin ku bertahan meski kadang mendendam. Akankah kau bahagia bila cinta tak ada? Mungkinkah kembali
la chanson intitulée Mendendam, en français La Vengeance, chantée par Marcel. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour tout le monde, sur l'onde courte de 3,3-5 kHz ou sur le site web de www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique musicale. Et cette fois, nous allons vous présenter des chansons en provenance de Javaès. Pour commencer notre édition, on va écouter la première chanson intitulée Keraben Sape, chantée par Umar Dhani. Kalele
potongan sape sempon e kerapen songana pamekasan sampang tor pengkalang ngereng areng sareng padeng olati kerapen sape aduh pabu sampai seeker dudu ce santana aduh ce bengala orang ngasenong ko iatas kaleles semena nomor setong atan
Voilà l'une des chansons de Jaffa Dallès intitulée Kerapen Sape, chantée par Omar Dhani. Personne ne sait pas qui est le compositeur de cette chanson. Cette chanson parle de la coutume de Kerapen Sape ou bien Kerapen Sapi, la race de vache originaire de l'île de Madura, Jaffa Est. Le Kerapen Sapi est une tradition typique de la communauté madouraise qui se déroule chaque année à la fin du mois d'août ou au début du mois de septembre et qui est continué pour la finale à la fin de septembre ou octobre. Bon, chers amis, écoutons maintenant d'autres chansons intitulées Tanduk Majung, chantées par son trio. Bonne écoute.
Oh,
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour tout le monde. On se retrouvera demain dans la même heure et la même fréquence. À bientôt!